Aujourd'hui, la masterclass de Jean Nouvel avec Arnaud Laporte.
Nous ouvrons à présent la masterclass de Jean Nouvel qui se déroule en public au studio 106 de Radio France. Alors je vais bien sûr faire quelques rappels biographiques de votre parcours Jean Nouvel, mais peut-être deux questions préalables, puisqu'on demande souvent aux invités de nos masterclass s'ils croient à la vocation. Et en ce qui vous concerne, on peut lire, ça et là, que vous vouliez être peintre. Ce sont vos parents qui vous ont conseillé de suivre plutôt des études d'architecture.
Pas du tout.
Ah, alors c'est une fausse information.
Ah, c'est une fausse information totale.
Vous n'avez jamais voulu être peintre?
Pas, il voulait absolument pas que j'aille à l'école des beaux-arts. Il aurait voulu que je devienne ingénieur ou professeur. Bon, ça, c'était pas possible. J'étais fils d'enseignant et j'ai trouvé une astuce parce qu'en fait, je voulais aller aux beaux-arts en art plastique.
Vous vouliez être peintre, ça c'est vrai.
Peintre, c'est une plasticien. Façon réductive. Plasticien, on pourrait dire, oui. Mais ça, on pourrait dire peintre, bon, au sens large. Et je me suis dit, comment je peux me tirer de cette histoire-là? Il fallait que je fasse mathématiques générales physiques en même temps et que je fasse une chose sérieuse. Et j'ai dit, finalement, je vais devenir architecte, parce que ça, c'est sérieux. Donc, je vais aux Beaux-Arts quand même, je vais en architecture, et puis au bon moment, hop, je repasserai dans l'autre, de l'autre côté. Et je suis jamais revenu. C'est comme ça qu'on se perd.
Ça va peut-être arriver. Mais alors, la question de la discipline, elle peut se poser aussi, comme c'est parfois le cas dans ces masterclass, qui accueillent aussi deux grands chefs cuisiniers, des commissaires d'exposition. Concernant l'architecture, alors dans l'histoire, l'architecture fait absolument partie des beaux-arts. Aujourd'hui, quand on parle d'artistes, disons pour un grand public, y inclure les architectes ne va pas de soi. Est-ce que vous considérez comme vous comme un artiste, Jean Nouvel?
Alors ça, c'est une grande question, parce que effectivement... Beaucoup d'architectes se revendiquent artistes. À l'époque, je passe d'une époque qui doit correspondre à peu près aux années 70, quelque chose comme ça, on m'a demandé d'exposer dans une galerie du côté de la Bastille, et j'ai exposé une attestation sur l'honneur, comme quoi je n'étais pas un artiste. Ma conviction, en fait, est plus complexe que ça. Je pense que un architecte ne peut pas s'abriter derrière sa condition d'artiste pour faire ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire que l'architecture est un art utile. On a d'abord un rôle social. Et on doit effectivement investir de l'argent au bon endroit. Et faire en sorte que ça résiste, que ça défie le temps. Et bon, tout ça, c'est notre responsabilité. Donc, en fait, l'architecture est un art, c'est sûr. Mais c'est aux autres de déterminer qui est artiste. Et de plus en plus, le rôle sociétal de l'architecte n'est plus tenu. C'est-à-dire que c'est pas grave pour les architectes, c'est encore embêtant, c'est très embêtant pour eux, mais c'est beaucoup plus grave pour les autres. C'est-à-dire qu'actuellement, dans tous les domaines de l'architecture, de la plus grande échelle à la plus petite échelle, moi je prétends que l'urbanisme, c'est de l'architecture à grande échelle, par exemple. Bon, c'est une chose qui a été tuée par le XXe siècle, avec un isme, il y a eu beaucoup d'ismes dans le XXe siècle. L'urbanisme a fait des dégâts aussi. La plupart des décisions dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de l'architecture au sens du quartier, dans le domaine aussi de la construction des immeubles qui sont bardés de normes et de réglementations absolument terribles, l'architecte, le plus souvent, décide une façade dont il n'a pas à décider de la taille de l'immeuble, ni de sa situation, ni du nombre d'étages. Bon, il essaie une façade. Bon, ça, c'est pas être architecte. Donc, le rôle sociétal de l'architecte doit être reconnu, et je crois qu'il faut absolument, d'urgence, que ce rôle s'applique au développement urbain, à tous les quartiers, à toutes les décisions qui impliquent la ville, parce qu'actuellement, elles sont prises par des technocrates, par des administrations, souvent. Elles sont prises par des gens qui n'ont aucune culture qui est en relation avec le principe décisionnel que représentent des actes comme cela, et ça donne l'uburbanisme que l'on connaît, et ça donne les catastrophes successives que l'on voit dans tous les développements urbains tout autour de la planète. Donc je crois que ça, il vaudrait mieux que ça change, pas pour une raison corporatiste, mais pour une raison fondamentale qui est celle du plaisir de vivre, qui est celle de la nécessité d'avoir des humanistes, des poètes, des gens qui ont une formation transversale qui s'occupent de ces questions-là.
On va revenir bien sûr sur ces questions, applaudissements dans la salle, Jean Nouvel, mais peut-être justement pour faire le lien très évident et revenir un instant sur ces années de formation qui ont été les vôtres, évoquer quelqu'un qui nous manque, qui est Claude Parent, en étant à ses côtés, jeune étudiant, qu'est-ce qu'il a pu vous transmettre, qu'est-ce qui se transmet d'un artiste ou d'un à un autre?
Ben Claude Parent, à la fin des années 60, quand je suis allé le voir, c'était l'architecte qui travaillait avec André Bloch. André Bloch, grand sculpteur. André Bloch, qui était aussi le propriétaire de la revue Architecture d'aujourd'hui, qui créait aussi à l'époque une autre revue qui s'appelle Aujourd'hui, qui était liée aussi aux arts. Et Claude Parent travaillait pour André Bloch, a fait la maison d'André Bloch, a fait avec André Bloch la maison de l'Iran à la Cité universitaire. Et c'était quelqu'un de très impliqué dans le monde des arts aussi. C'était un grand ami d'Yves Klein, dont il a fait le mémorial, qui peut-être va s'édifier à Nice d'ailleurs. Parent, c'était quelqu'un qui représentait l'opposition à tout le système éducationnel des beaux-arts, qui représentait une opposition par rapport à l'idée dominante du moment, qui était quand même le fonctionnalisme et Le Corbusier comme grand héros, qui se battait pour ne pas faire des choses qu'il voulait pas faire dans les banlieues, et qui avait donc un sacré caractère, quoi. Et c'est quelqu'un qui, en plus, avait une vision théorique des choses, et c'est quelqu'un qui s'était rapproché de Paul Virilio. Donc moi, quand je suis arrivé, finalement, je suis tombé, c'était un peu avant 68, je suis tombé là au bon moment, c'est-à-dire que ma véritable école, avant que ça soit complètement désintégré, ça a été Parent et Virilio. Bon, ça pouvait tomber plus mal.
C'est
donc
certain.
Pendant 5 ans, j'ai travaillé pour eux, et c'était effectivement absolument incroyable, parce qu'on travaillait sur la théorie de l'oblique, sur la théorie aussi des rapports qui étaient institués entre l'architecture et l'architecture militaire, bunker archéologie par exemple, et Virilio, c'était le moment où ils construisaient cette église Sainte Bernadette à Nevers, qui ressemble à un bunker qui avait fait un scandale à l'époque. Bon, et en tous les cas, on était vraiment au cœur de la création, avec des architectes artistes et intellectuels, ce qui n'était pas automatiquement la ligne médiane des architectes qui sortaient de l'école des Beaux-Arts à l'époque.
Ouais, cette ligne-là, Virilio Parent, elle vous a marqué. C'est vrai qu'on demande souvent aux artistes s'il y a une dimension politique dans leur art. Jean Nouvel, on a déjà entendu, dès vos premiers propos, à quel point, oui, la politique, au sens le plus noble de ce mot et au sens originel, vous importe. Mais très tôt, il y a eu des combats de toutes sortes. Vous continuez régulièrement à prendre la parole, donner votre point de vue sur l'état des sociétés, mais revenir à une des origines, et le mouvement Mars 76,
voilà, c'est ce que je voulais
dire. Un moment fondateur. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir dessus?
Oui, mais là, c'était l'époque des concours en architecture, qui semble une évidence aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y en avait pas pratiquement. Et ils avaient été institués, et les jeunes architectes, pour la première fois, accédaient à la commande par des concours. Les concours d'État. Il y avait les concours liés à la jeune architecture, et les lauréats de ces concours, à un moment, ont décidé, sous l'impulsion de quelques-uns dont j'étais, de prendre la parole et de s'insurger contre la façon dont les villes étaient modifiées en France par les plans d'urbanisme, puisque le même plan d'urbanisme, à travers les plans d'occupation des sols, était appliqué à toutes les villes françaises, qui avaient toutes une zone pavillonnaire, une zone industrielle, une zone commerciale, une zone de bureaux, bon, un zoning absolument hallucinant. Et le même schéma a été fait dans les DDE, les directions départementales de l'équipement, a été appliqué là. Il n'y avait pas de réflexion liée au site, liée à la situation, ça n'existait pas. Bon, on a donc fait un papier dans Le Monde qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, et mars 76 a été après à l'origine de beaucoup de choses, en particulier de la création du syndicat de l'architecture, qui avait été créé avec les gens de la DUA comme Christian Ouvette, avec des architectes socialistes comme Claude Guilin et Claude Damery, et c'est avec eux que nous avons créé le syndicat de l'architecture à l'époque, qui avait comme ambition de défendre l'architecture d'abord pour mieux défendre les architectes. Alors il y avait un petit parallèle avec le syndicat de la magistrature qui existait déjà, et c'était en opposition évidemment avec l'ordre des architectes et avec l'UNSVA, qui est le syndicat, je dirais, corporatiste au sens traditionnel. Et on trouvait que les architectes corporate, entre guillemets, ne défendait pas vraiment cette notion fondamentale qu'est l'architecture en tant qu'art et en tant que vision sociale totalement située.
Je fais un peu de prospective, mais pour nous ramener au présent, depuis mars 76, 41 ans plus tard, au moment où nous enregistrons cette masterclass, Jean Nouvel, Vous pensez que quel est le camp qui a gagné aujourd'hui selon vous? Ou est-ce que le combat continue?
Oh ben le combat est toujours là, hein, et plus que jamais. J'ai d'ailleurs fait un petit article lié à la campagne présidentielle, où je dis qu'il y a deux choses qu'un président de la République devrait faire, au moins. Il devrait dire et faire cela, là, avais-je dit. La première, c'est que c'est les quartiers difficiles, personne n'y a touché depuis 20 ou 30 ans, que les gouvernements soient de gauche ou de droite. Et on se rend compte quand même que la plupart de nos ennuis viennent de cette ségrégation, et le terrorisme en particulier, la plupart de nos terroristes viennent de là. Il se trouve qu'il est impensable que le nouveau pouvoir reste encore 5 ans sans intervenir sur le plan urbain, sur le plan de la mixité sociale, sur le plan, et je propose qu'il y ait une maison pour tous au sens large qui soit installée dans chacun des quartiers difficiles, ça fait environ 1000 maisons en France, qui serait le lieu de rencontre pour tous, un lieu d'accueil, un lieu où on parlerait du futur et du devenir de ces quartiers, un lieu qui accueillerait du travail et des cultures de toute nature, dans les arts plastiques, aussi bien les tags, dans la musique, vous imaginez ça, dans le sport aussi, etc. Bon, et pas uniquement une sorte de culture officielle qui serait diffusée à partir de là. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je dis que par rapport à la façon dont les villes se développent tout autour de la planète, et en France aussi, bon, il y a une sorte d'abandon des décisions sur la localisation des développements. On prend les terrains libres et on les développe comme ça à l'infini, et il faut absolument arrêter le territoire des villes. Il faut qu'autour des villes, il y a un petit chemin de ronde, que d'un côté, on cultive des légumes et des fruits, et qu'il y ait toute une agriculture qui soit liée à ça, on pourra contrôler le sol, la qualité, il y aura moins de transport, et on n'amènera pas ça de l'autre bout de la planète. Et surtout, on va créer un renversement, c'est-à-dire que la périmétrie va devenir une ligne nette, et va devenir une ligne qui va prendre de la valeur, et on va pouvoir travailler et continuer à construire en relation avec ce qui est là. Si un président de la République prenait ces deux décisions-là, je crois qu'il aurait fait un bon travail dans le domaine de l'urbain qui n'a encore jamais été fait sur cette planète.
Voilà, je profitais quand même de cette masterclass pour que cette pensée et ces propositions et ces pistes soient ici énoncées, mais je vais revenir quand même en arrière, Jean Nouvel, pour savoir le premier projet construit, quelle place est-ce qu'il occupe dans votre mémoire, dans votre parcours? C'est quoi? C'est l'école maternelle? C'est une villa privée?
C'est une villa privée.
Une villa privée.
Et elle est totalement sous influence, puisque j'étais encore chez Claude Parent. Mais elle a une histoire un peu particulière aussi, parce qu'un de mes amis, qui était chez Claude Parent à l'époque, voulait passer son diplôme à l'école spéciale d'architecture. Et à l'époque, en 68, il suffisait de ne rien faire pour avoir le diplôme. Il me dit, mais qu'est-ce que je peux montrer? J'ai pas envie de faire ça. J'ai dit, il travaillait un peu avec moi sur le projet. Il dit, prends cette maison, et puis on va la pousser un peu, tu vas la présenter pour le diplôme. Ce fut le seul diplôme refusé en 1968. Ce qui est quand même une sacrée prouesse. Et pourquoi? Donc c'était une maison en béton brut qui s'enterrait dans un site de lotissement pour recréer son propre paysage, en béton brut, avec des boîtes de verre un peu à la James Stirling qui sortaient sur les côtés, une chose qu'ils n'avaient jamais vue de leur vie, effectivement. Et donc ils ont décidé, comme c'était un peu oblique aussi, il y avait certaines pentes dans la maison et les murs étaient un peu obliques, les juges du diplôme ont décrété que la personne qui allait vivre là-dedans allait devenir folle. Bon, tout simplement. Bon, cette maison a été construite, je vous garantis que la personne n'est pas devenue folle. En tous les cas, c'est la première maison que j'ai réussi à faire. Petit à petit, malheureusement, elle a été transformée et aujourd'hui, elle n'est plus qu'un souvenir.
Mais quand on dit que vous faites rien comme tout le monde, ça a commencé donc très tôt, Jean Nouvel.
Oui.
Vous avez 35, 36 ans quand vous êtes choisi pour le premier grand projet du président François Mitterrand, l'Institut du Monde Arabe. Qu'est-ce que ça change pour vous à ce moment-là?
À ce moment-là, c'était l'arrivée de Mitterrand, effectivement. Ils avaient décidé de faire appel aux architectes qui ne travaillaient pas sous Giscard d'Estaing, et qui ne faisaient pas la même chose, en tous les cas. Et donc, on se retrouvait, les 6 ou 7 jeunes architectes de l'époque, en concours pour construire sur un site assez impressionnant, parce que on est quand même face à l'île Saint-Louis, à une Notre-Dame en perspective, et pour parler d'un d'une maison vouée à la culture arabe. Bon, effectivement, pour nous, c'était une véritable aventure. Donc, j'ai gagné ce premier projet avec mes partenaires de l'époque. On nous a dit, vous avez gagné trop tôt. Parce qu'on savait que c'était le premier des grands projets, que les autres étaient beaucoup plus grands. Bon, mais on a mis 5 ans à le construire. Maintenant, pour moi, c'est un projet tout à fait important dans le sens qu'il définit beaucoup de paramètres qui sont essentiels, à savoir que c'est une architecture de situation. C'est un bâtiment qui est tout à fait lié à le dialogue à distance avec Notre-Dame, avec une faille qui est orientée sur le chevet de Notre-Dame et sur la flèche. C'est un double bâtiment où d'un côté on est en relation avec l'altimétrie de l'université de Jussieu, de l'autre avec les immeubles haussmanniens qui sont de l'autre côté. On prend la courbe du fleuve, etc., etc. Et c'est après Pompidou. Un bâtiment où on ne voit pas un tuyau, quand même. C'est-à-dire, il est très très moderne, mais le squelette est à l'intérieur. C'est toute une autre tension, toute une autre écriture architecturale qui caractérise beaucoup plus cette architecture des années 80.
Oui, il me semble que, et vous venez très bien de le dire, évidemment, Jean Nouvel, que là, les bases, finalement, sont posées du travail en situation, en effet. Mais si on reste un instant à Paris pour parler de grandes réalisations, Jean Nouvel, et donner des repères à nos auditrices et auditeurs qui ne savent pas toujours qui a fait quoi, finalement. On vient de parler de l'Institut du Monde Arabe, il y a ensuite la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, boulevard Raspail, plus récemment le Musée du Quai Branly, la Philharmonie de Paris, bon, le sujet est délicat, je ne sais pas si on en reparlera, mais 4 réalisations majeures dans la capitale française, ça fait quoi de se dire qu'on a changé le paysage d'une des villes les plus célèbres, importantes du monde à ce niveau-là?
Changer, je ne sais pas, marqué en tous les cas.
Changer, à l'évidence.
Marqué. En tous les cas, ce qui est à remarquer justement, c'est que ce sont des bâtiments culturels. Donc il y a un peu une spécialisation qui est née, je dirais pas contre moi, parce que j'ai fait des logements aussi, sociaux et autre chose. Bon, mais donc il y a eu un enchaînement de situations sur des lieux exceptionnels, dont évidemment je suis très heureux. La Fondation Cartier était aussi une autre attitude à l'époque, on était 10 ans après, donc... on en parlait beaucoup avec Paul Virilio, la transapparence et pas la transparence, c'est-à-dire ce bâtiment qui développe une forme d'immatérialité que j'avais essayé de faire aussi à travers la Tour sans fin, qui était un gratte-ciel de 420 mètres qui devait se faire à la Défense et qui a été annulé du jour au lendemain, ce qui fait que j'ai été obligé de déposer mon bilan, une honte à l'époque. C'était la Caisse des dépôts pourtant avec nous comme banque, il n'y a aucune raison que ça s'arrête là. Mais disons que c'était une autre... Chaque bâtiment, en fait, j'ai l'habitude de dire, à Paris, je fais un bâtiment tous les 10 ans. Bon, donc celui des années 90, c'était la Fondation Cartier avec ce vocabulaire basé sur le reflet de l'arbre qui est sur l'arbre, sur le reflet du nuage qui est sur le nuage. Pourquoi il y a cette immatérialité? Parce qu'il y a des jeux avec la nature, des jeux avec la profondeur de champ, des jeux, bon, toute une série d'éléments qui sont pas détectables d'abord, mais qui sont une forme finalement de prestidigitation, quoi, ou de présentation particulière. Après donc le Quai Branly donc. J'avais d'ailleurs participé au premier concours qui était pour faire un centre de conférence international, sur lequel j'étais arrivé dans les 3 derniers, mais Bitterrand avait pris un autre architecte. Et un deuxième concours se fait, celui-là que j'en ai eu. Et pour moi, c'était important d'imaginer un territoire pour ces civilisations qui, pour beaucoup, ont disparu. Pour certaines, sont encore vivantes. Donc là, c'était important de travailler avec les artistes de ces civilisations qui étaient vivantes. On a travaillé avec les artistes aborigènes. Donc créer ce territoire d'abord, parce que on a le sentiment, quand on voit ces œuvres qui ne sont pas de chez nous, qu'elles ont été un peu raptées, ce qui arrive souvent dans les musées pour des tas de raisons historiques. Mais là, c'est encore plus sensible. Donc je voulais absolument trouver un lieu qui les accueille gentiment. Et je voulais absolument que ce bâtiment n'ait pas de référence occidentale voyante. On m'a demandé pourquoi t'as pas mis du marbre, pourquoi t'as pas mis... Non, dans des matériaux pauvres... Un bâtiment qui est au milieu du site, alors que tous les règlements voulaient qu'on construise sur le contour du site, avec un jardin parisien qui est dedans, mais fait avec Gilles Clément, donc une certaine liberté symbolique des herbes, des arbres, et bon, qui est pas du tout un jardin à la française, voilà ce qu'on peut dire. Bon, donc, un jeu sur les couleurs aussi qui appartiennent aux objets de toutes ces collections. Donc, c'est un travail aussi sur l'intégration, c'est un travail sur la contextualité, et c'est un travail en hommage à ces objets. Et j'expliquais toujours que l'on serait sûrement pas content si on prenait une œuvre du Quattrocento, Vinci par exemple, et qu'on allait le mettre dans une cabane dans la forêt équatoriale et poser à même le sol, on trouverait que c'est pas respectueux. En sens inverse, on trouve ça normal. Bon, mais dans ce sens-là, ça serait pas admissible. Donc j'ai voulu montrer qu'a priori, on pouvait travailler sans faire du Disney, dans une colorimétrie, dans une relation à la lumière qui créait une correspondance avec les conditions dans lesquelles ces œuvres ou ces objets vivaient avant.
Décennie suivante, Philharmonie.
Philharmonie, bon, j'étais pas à mon coup d'essai parce que j'avais déjà fait l'Opéra de Lyon dans les années 80.
Avec
j'avais ensuite fait Lucerne.
Lucerne, très important.
Lucerne, donc grande salle philharmonique aussi.
Sa préférée des musiciens, notamment de Pierre Boulez, qu'il aimait tant.
Celle de Copenhague aussi. Donc, quand le concours est arrivé à Paris, évidemment, j'étais très heureux d'être invité, encore plus heureux de le gagner. C'était un site très difficile. Pourquoi ? Parce qu'au plan de ce qu'est une philharmonie, la première chose qu'il faut protéger, c'est le silence. Et quand on est au bord du périphérique, avec un métro en dessous, avec le zénith à côté, j'étais très, 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 très inquiet. Donc, j'ai fait une salle qui est au milieu de tout le dispositif, avec comme un oignon, en fait, hein, c'est-à-dire avec toute une série de couches autour, comme ça. Et la dernière couche de protection est la musique elle-même. Et s'il y a un petit miracle musical, de mon point de vue, il vient de là. Et la salle elle-même, elle est à moitié à Paris, et à moitié sur le périph' ou de l'autre côté du périph'. Donc ce que j'ai voulu, c'est que ce bâtiment appartienne au Grand Paris. Appartienne non pas au Paris historique tel qu'on l'a défini, mais au nouveau Paris historique. Et pour ça, c'est une colline, en fait. C'est une colline qui est parcourable, c'est un peu comme les buts de Chaumont, finalement. Et en fait, on monte sur le toit, et de là, on peut voir Montmartre, effectivement, comme dit la formule populaire, monte là-haut et tu verras Montmartre, c'est le cas. Et ce bâtiment, ensuite, il est symbolique, c'est-à-dire qu'il est symbolique de plusieurs choses. Il est symbolique d'abord en tant que métaphore musicale, qu'allégorie musicale, avec l'envol, le thème de l'envol, qui existe avec les reflets, qui existe avec les oiseaux, avec les feuilles qui sont dedans. Et puis en même temps, c'est une symbolique du territoire à travers ses pentes. Et là, j'en ai fait un hommage à Claude Parent, puisque toute la philharmonie est organisée autour de foyers qui sont en pente, et puis on monte sur le toit à travers de grandes pentes, et le toit lui-même est en pente, etc. Donc c'est un relief dans la ville, un relief de plus, un relief artificiel, qui est entièrement voué à une certaine esthétique et idée de la musique.
Et alors le bâtiment parisien de Jean Nouvel de la décennie suivante, ce sera ?
Ce sera des tours d'habitation et de bureaux, d'habitation non, d'un hôtel, mais surtout de bureaux, qui s'appellent les tours du haut, qui vont être au bout de l'avenue de France, en limite du périphérique, et qui, elles aussi, vont jouer sur la contextualité. Je suis un architecte contextuel, il faut bien comprendre ça. Et là, je me trouve à un endroit très particulier, parce que c'est là où toutes les voies ferrées arrivent pour aller sur la gare d'Austerlitz, et il y a 15 ou 20 voies là, qui sont là, et on ne s'en rend pas compte, mais quand on monte, il y a une sorte de viaduc qui passe par-dessus, c'est le périphérique lui-même, avec un mât et des haubans, comme ça. Et quand on est là-haut, on voit tous ces trains passer, et en transversal, on voit les voitures passer. Et le soir, bon, c'est évidemment assez magique. Les phares, les feux rouges, les trains avec leurs petits points de toutes les fenêtres, etc. Bon, c'est assez beau. Et je me suis dit, il faut absolument capter ces instants de mouvement et ces instants rythmé le soir et à certains moments de la journée. Et là, j'ai poussé l'immeuble, comme ça, un tout petit peu. Un peu comme la tour de Pise, finalement. J'ai mis un tout petit peu en biais. Comme ça, il passe sa tête. Comme ça, depuis l'avenue de France, on le voit, sinon on le verrait pas. Il a l'air de regarder de l'autre côté. Il y a une tête, là-haut, comme ça, un volume qui est détaché. Et ce bâtiment, donc, avec ses miroirs, prend une succession d'images qui sont celles des voies et du périphérique, parce que c'est comme des écailles, un peu comme un four solaire, si vous voulez, sauf que c'est dans l'autre sens. Et donc, on va voir tous les mouvements des trains, des voitures, des gens qui passent en dessous. Donc c'est un bâtiment qui est à la fois un belvédère sur cette situation poétique, architecturale et urbaine qui est assez rare, mais l'esthétique des voies ferrées, ça existe quand même, c'est pas une chose secondaire. Et celle du périphérique, surtout quand il sera propre, parce que ça va arriver quand même, depuis le temps qu'on nous le promet, ça va arriver, dans 10, 20 ou 30 ans, ça fera plus de bruit et il y aura plus de poussière. Ce sera encore plus agréable, donc ça sera une rivière silencieuse avec ses petites lumières, et je pense que ce sera un lieu encore plus agréable.
Alors, vous expliquez formidablement bien, Jean Nouvel, architecte contextuel, en effet, comment vous prenez la dimension des lieux, des espaces, des personnes qui les traversent, qui y habitent, qui y travaillent. Beaucoup de réalisations à l'étranger, de Tokyo à New York, à Minneapolis, à Sydney. Quand vous êtes à l'étranger, ou quand vous faites un projet à l'étranger, de quelle façon est-ce que la culture, on va dire, de ces villes-là, de ces pays-là, rentre dans vos projets? Et de quelle façon vous en prenez la mesure?
Ce qui est étonnant pour un architecte, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive sur un projet, il est incompétent. Il est incompétent parce qu'il ne sait pas la situation. Et c'est vrai à Paris, comme c'est vrai à Sydney. C'est-à-dire qu'on se rend compte, quand on étudie le Grand Paris, par exemple, c'est un vertige. Hein, c'est-à-dire qu'on plonge là-dedans et on se rend compte qu'on n'a jamais vu la ville comme ça. Donc à chaque fois, il faut aller chercher les raisons de l'existence du lieu tel qu'il est. Et puis ensuite, il va falloir trouver les raisons de compléter ce lieu. C'est ce que j'appelle la recherche de la pièce manquante du puzzle. Bon. Mais ça commence à chaque fois comme ça. Alors quand on est plus loin, il faut encore faire plus d'efforts, avoir plus de consultants, aller ouvrir des livres, mais surtout avoir des partenaires. Des partenaires locaux. Moi, je ne travaille jamais sans un partenaire local, sans un architecte local qui est avec moi et avec qui je suis en dialogue. Donc, à chaque fois, ce dialogue, cette compréhension du lieu, cet amour du lieu aussi, parce que si en architecture, on n'aime pas le lieu, il faut aller ailleurs. Donc, c'est ça qui fait les projets. C'est entièrement ça. C'est uniquement cette volonté de qualifier le lieu, de rechercher, de débusquer le génie du lieu, si on peut. Bon, c'est à chaque fois, donc, une recherche particulière sur l'esprit de la ville et sur l'esprit très particulier aussi de la personne qui veut construire. Le maître d'ouvrage, c'est très important. Celle qui a décidé de construire là ou une salle de musique ou des logements ou des bureaux. Bon, c'est une personne ou c'est les personnes qui sont là. Donc tout ce dialogue-là conduit à une architecture.
Mais c'est vrai qu'un architecte, à l'inverse d'un écrivain ou d'un peintre, il peut pas travailler seul. Ouais. Alors, il y a bien sûr aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, les ateliers Jean Nouvel. Il y a aussi les artisans, les différents corps de métier qui participent à l'élaboration et la construction d'un bâtiment. Le maître d'œuvre, le commanditaire. Est-ce qu'on pourrait parler...
Le maître d'œuvre, c'est moi.
Le maître d'œuvre, le commanditaire, pardon, le maître d'ouvrage. Faites bien de me corriger.
Oui, sans ça, ils vont se perdre.
Oui, oui, absolument. Est-ce que vous pourriez parler de ces différents cercles et de la façon, justement, dont vous voulez traverser, retraverser? Alors, quand on a évidemment plein de projets dans plein d'endroits, c'est compliqué, mais il n'y a pas de journée de type de Jean Nouvel, mais comment est-ce que vous travaillez? Alors, c'est ce premier cercle d'abord.
Il faut d'abord comprendre une chose par rapport au nombre de projets, parce que les personnes sont toujours affolées quand on voit le nombre de projets sur lesquels on travaille. La première parallèle que je fais, c'est que si un jour vous avez un problème grave sur le plan plan médical, prenez un chirurgien dont vous n'êtes pas le premier patient. Quand même. Il vaut mieux qu'il ait une certaine expérience. Donc à chaque fois qu'on fait un projet, cette expérience-là, elle va servir pour les autres projets. Donc ça, c'est vraiment une clé. Oui, mais sur chaque projet, il y a une situation qui est unique. Donc il faut à chaque fois remplir chaque case. Il faut à chaque fois parler avec toutes les personnes qui sont concernées. Donc chaque expérience précédente est aussi un enrichissement sur les pièges qu'on peut trouver. C'est aussi un éclairage sur une chose qu'on a trouvée quelque part et qui ne fait pas de sens là et qui va faire du sens ailleurs. Donc c'est bien dans la répétition aussi de l'ensemble de ces projets, et je sais ce que je voulais dire que ces projets-là, ils se développent sur 10 ans, souvent.
Donc quand on a 40 projets, si c'est 40 projets sur 10 ans, ça change la face du monde, quoi. Donc les projets d'architecture, c'est une série d'actions qui s'étalent dans le temps. C'est pas comme un cinéaste qui fait en général un film une fois. En quelques fois, il en fait deux ou trois ensemble, mais c'est assez rare quand même. Pour nous, c'est beaucoup de projets en même temps.
Pour commencer par peut-être le premier cercle, celui des ateliers Jean Nouvel, de qui avez-vous besoin pour travailler? Qu'est-ce que vous demandez aux gens qui sont autour de vous? Pourquoi vous les choisissez, elles et eux?
Non, mais je fais toujours le parallèle entre le cinéma, vous en sortez, je crois, et l'architecture, au moins sur ce plan-là déjà. C'est-à-dire qu'il y a une division du travail qui est absolument essentiel et qu'il y a des spécialités, il y a différents profils d'architectes, il y en a une vingtaine au moins, qui sont irremplaçables. C'est-à-dire qu'on peut pas, faire aujourd'hui un grand bâtiment, c'est que faire comme une grande production de cinéma, c'est pareil. Si on voulait faire un générique, ce serait à peu près du même ordre et peut-être plus long encore. Bon, donc c'est dans les ateliers Jean Nouvel, il y a beaucoup d'architectes qui ne font pas le même métier, qui participent à un métier qui est celui de l'architecture, et ils peuvent dire, comme on le fait au cinéma d'ailleurs, mais on le fait dans le bâtiment, quelqu'un qui a travaillé sur ça dit j'ai fait ce film. Quelqu'un qui a travaillé sur ce bâtiment dit j'ai fait ce bâtiment, même s'il a posé la moquette, il dit c'est moi qui ai fait le bâtiment là. Bon, donc je veux dire il y a une appropriation qui est liée à l'amour de son métier, qui est liée à l'enchaînement de toutes les tâches et qui fait qu'à l'arrivée il y a une œuvre et une chose qui est constituée. C'est un outil à chaque fois. C'est-à-dire qu'un atelier d'architecture, il y a plusieurs types d'ateliers. Il y a des ateliers dits corporate où il y a 1000 personnes souvent et qui répètent souvent la même chose avec les ordinateurs, c'est encore plus facile. Et il y a les outils comme ça qui sont beaucoup plus spécifiques, qui peuvent traiter des questions beaucoup plus contrastées. En général, les corporate, ils font toujours le même type de programme, des centres commerciaux, des bureaux, des logements. Et finalement, on change un paramètre et puis on construit comme ça. Et ce sont des architectures qui sont parachutées. Je me bats contre le clonage architectural. J'ai écrit un manifeste là-dessus et un livre avec Jean Baudrillard sur les objets singuliers. Bon, un bâtiment qui n'a pas de racines ne devrait pas exister. Bon, plus on travaille sur la singularité, plus il faut travailler. C'est-à-dire que normalement, plus on devrait être payé. C'est pas automatiquement comme ça, mais ça veut dire qu'on prend notre métier au sérieux quand même. Et ça veut dire donc qu'il faut avoir un enchaînement de qualifications. Depuis les recherches documentaires jusqu'au dernier moment où on va faire les derniers comptes et vérifier que tout est bien bouclé, il y a 100 personnes qui sont passées par là.
Mais si on continue à affiner la métaphore du cinéma, Jean Nouvel, il y a la politique des auteurs, il y a celui qui signe, le metteur en scène, le cinéaste, en l'occurrence Jean Nouvel. Qu'est-ce que vous déléguez le plus volontiers ou le moins difficilement?
Mais c'est pas une question de délégation au sens complet du terme, mais c'est une question d'attribution de tâches. C'est-à-dire que moi, je suis incapable de faire ce que font la plupart de mes architectes pour moi. De toute façon, je suis incapable en termes de temps déjà, mais même en termes... Si on parle des architecturistes, par exemple. Architecturistes, ça veut dire les gens qui représentent l'architecture. Bon, ça a beaucoup changé, mais maintenant il y a de véritables virtuoses qui travaillent avec les ordinateurs, avec les machines, etc. Moi, je suis incapable de faire des dessins comme ça. Donc la plupart des personnes qui travaillent sur la mise au point de tous ces bâtiments, sur différents plans, que ce soit le plan de la fabrication appelée des détails techniques ou de façade ou de bâtiments structurels ou de bâtiments comme ça, c'est des choses très impressionnantes. Il faut savoir que sur le projet par exemple du musée national du Qatar, on a travaillé avec un grand ordinateur qui s'appelle Katia et avec une vingtaine d'ingénieurs pendant 2 ans pour faire une chose. Il aurait fallu des siècles et des siècles avant pour arriver à faire une chose pareille. Donc il y a des délégations qui vont de soi parce que c'est un mode de fabrication totale. C'est un mode de pensée pour arriver à ça. On fait actuellement une tour qui sera la tour la plus haute de Bangkok avec l'ingénieur qui a fait la tour la plus haute qui est à Abu Dhabi. On a inventé tout un système pour avoir une tour de 15 mètres de large. On est 15 mètres de large. On ne peut pas faire plus. Sur 330 mètres de haut, pour qu'elle tienne et qu'elle tienne élégamment et que ça donne un objet tout à fait exceptionnel, je ne peux pas le faire sans lui. Non, c'est absolument impossible. Donc c'est un dialogue, c'est une coproduction, je dirais.
Mais par rapport à ces compétences, elles sont liées aussi à des outils nouveaux. Est-ce que l'architecture, au fond, depuis que vous la pratiquez, Jean Nouvel, elle a terriblement changé, mais donc positivement grâce à ces outils informatiques nouveaux?
Mais c'est plus la même architecture dans sa production, mais enfin l'architecture restera l'architecture, c'est-à-dire c'est un art.
Mais sur la fabrication, est-ce que c'est quand même sont des outils qui vous facilitent la vie?
Non, mais ces outils vont continuer à évoluer évidemment, mais je crois que ce qui est le plus important en architecture, c'est la matière grise. C'est l'idée de la chose. C'est quand même qu'est-ce qu'on va construire à ce moment-là, là. Alors ensuite, qu'on prenne un ordinateur ou qu'on passe 6 mois avec un thé, une équerre, ce qui se fait plus, ça change pas au fond, fondamentalement, la nature de l'objet. Il y a des outils évidemment qui nous permettent de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire. Ça fait 100 ans ou ça fait 20 ans, ce que je disais par rapport à ce musée. Donc on a un champ qui est ouvert, et ce qui fait qu'une architecture prend son sens, c'est le fait qu'elle est datée aussi. Toute architecture est datée. Si on joue une architecture sans la dater, ça ne veut strictement rien dire. C'est pour ça que le pastiche ne veut rien dire. Si on veut refaire aujourd'hui quelque chose comme Versailles, ça va être très très difficile, et en même temps ça ne fait pas trop de sens. Bon, donc une architecture est datée. On a d'autres moyens, mais avec ces moyens, c'est toujours un architecte qui est derrière.
Et est-ce que vous avez dans vos poches un carnet, un crayon? Est-ce que vous dessinez vous-même, Jean Nouvel?
Je dessine avec mon doigt dans la nuit.
C'est-à-dire que racontez-nous ça.
Je l'ai raconté souvent, mais c'est en fait bon. Qu'est-ce que je fais? Je reste très longtemps sans dessiner. C'est-à-dire, je ramasse toutes les informations. J'ai des réunions d'abord. Et j'essaie d'avoir le maximum d'informations, parce que le pire qui puisse m'arriver, c'est qu'un paramètre soit oublié. Et l'architecture, c'est l'art de la synthèse. Et quand je considère que j'ai toutes les informations, je me réveille le matin, je me remets au lit avec un masque, avec des boules dans les oreilles, et je me mets dans une position où je laisse promener ce projet dans ma tête. Bon. Et il paraît, parce que je ne me rends pas vraiment compte, qu'on me voit quand quelqu'un arrive, avec le doigt comme ça, ou sur le drap, ou dans l'espace, comme ça, en train de dessiner quelque chose. Je crois que c'est à peu près la seule façon dont je dessine. Alors, évidemment, je griffe comme tout le monde. Quand j'arrive pas à expliquer quelque chose, bon, je prends un crayon mais je ne dessine plus au sens traditionnel du terme. Donc, mais dessiner, c'est la représentation de quelque chose que l'on regarde ou qu'on a dans la tête déjà. C'est une transcription. On dessine juste ou on dessine faux, mais il vaut mieux dessiner juste.
Et comment est-ce que vous savez que vous avez trouvé la bonne idée, la bonne forme pour ce bâtiment-là, dans cet endroit-là? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites c'est ça qu'il faut faire?
Quand je me lève euphorique au bout de 3 quarts d'heure, alors que je pensais que j'allais rester là 2 heures.
Là, c'est l'évidence.
C'est un signe clair, oui. C'est-à-dire qu'à partir de là, je sais, en fait, je fais ça chaque matin, pratiquement, parce que si je vais à mon bureau sans ça, à mes ateliers sans ça, ben, je n'ai rien à dire. Il faut quand même que je me fasse le film, d'abord. Et quand le film est fait, alors évidemment, quand on est à rechercher le sens des choses, et la nature de la forme et tout ça, bon, il y a un moment où la synthèse peut être longue, ça se passe pas automatiquement une séance, ça peut prendre 5 ou 6, mais quand il y a un moment où tout se recolle, où on sent que la chose est là.
Il y a des fois où c'était des fausses épiphanies, où
oui,
il y avait
oui,
l'euphorie, mais en fait c'était
oui,
pas ça.
Oui, et principalement quand on a oublié un paramètre. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que là, il faut tout reprendre à zéro, quoi.
Qu'est-ce qui vous est le plus difficile, au fond, Jean Nouvel, dans votre pratique? Quelle partie du travail qui est la plus compliquée pour vous, ou difficile vraiment?
Okay, la partie la plus difficile dans mon métier, c'est d'attendre. Et en même temps, j'ai pris un peu une habitude et une philosophie vis-à-vis de ça. Avant, il me tardait que mes bâtiments soient finis. Bon, maintenant, j'ai compris que plus le bâtiment était fini, plus c'était moi qui me finissais aussi. Donc, c'est pas formidable. Mais ce qui est le plus pénible, c'est souvent ça. C'est d'avoir quelque chose qui est là et de ne pas voir, et de pas le voir arriver, et quelquefois de ne pas l'avoir arrivé comme il faut. C'est-à-dire que souvent, il faut corriger, il faut démolir. Ça a été d'ailleurs le gros problème à la Philharmonie, où ils n'ont pas respecté du tout ce que je demandais comme mode de construction, et où je suis donc en procès avec pas mal de gens. Quand un bâtiment souffre, là, ça va pas. J'ai eu le problème avec Nemosus aussi, c'est-à-dire que c'était un bâtiment fait à Nîmes dans les années 70, en même temps que l'Institut du monde arabe, dans les années 80, pardon. Et ce bâtiment a été fait hors norme, parce qu'à l'époque, il y avait une disposition qui s'appelait REX, réalisation expérimentale, qui était du temps de Mitterrand, donc, où les architectes pouvaient ne pas respecter les normes en dehors des normes des tiers, du respect des tiers, et de proposer quelque chose qui était expérimental. Donc là, c'est ce qu'on a proposé avec Jean Bousquet, qui était le maire de Nîmes à l'époque, et on a fait des logements plus grands dans le même prix. Bon, et on a fait des logements avec des façades qui s'ouvrent, avec des tas de choses. Mais on n'a pas respecté la règle de la surface corrigée, et donc évidemment, c'est des logements dont le loyer était calculé en fonction du prix de revient et pas en fonction de la surface. Mais quand le maire suivant est arrivé, il a voulu remettre ça dans les normes habituel, si vous dire que la plupart des habitants étaient obligés de partir. Bon, ça a été un véritable scandale. Bon, j'ai d'ailleurs parlé de ça à Venise et ailleurs, et on a réussi à faire en sorte que ces immeubles continuent à rester à peu près sociaux. Mais ça, bon, ce sont des moments très très difficiles. Ce sont des moments quand on a à défendre des bâtiments qui souffrent comme ça, ou qui quelquefois sont bousillés. Le bâtiment de CLM BBDO, qui est à Issy-les-Moulineaux, avec le toit qui se mettait à l'envers comme une huître, etc., qui est, à mon avis, un des bâtiments sur l'art de travailler dans les années 90 les plus aboutis. Il y a une entreprise de développement durable qui a pris ça, qui a vendu tout. Tout est bousillé. Bon, et en fait, il n'y a pas de protection sur ces architectures-là. Donc, ça, c'est des moments difficiles.
Parce que c'est vrai que c'est une question récurrente de ces masterclass de France Culture, alors qu'ils résonnent différemment, effectivement, quand elle est adressée à un architecte plutôt qu'un peintre ou un cinéaste. Aimeriez-vous retoucher une de vos œuvres? Alors, dans le cas d'un architecte, non seulement ça peut arriver, des fois on vous demande que ça arrive, mais des fois c'est retouché sans, ce que vous voulez de dire à l'instant, sans votre accord. Quelle relation finalement a un architecte avec un bâtiment une fois qu'il est livré?
La première chose que j'ai essayé d'établir, c'est la façon de ne pas regretter ce que j'ai fait. Je fais toujours le maximum de ce que je peux, et je me dis qu'à un moment, quand je ne suis pas arrivé plus loin, c'est que dans des conditions données, à un moment donné, avec un temps donné, je ne savais pas faire mieux. Bon, et je suis conscient de certaines limites, mais j'ai besoin de ce parapluie-là. J'ai besoin de penser que je ne pouvais pas faire autre chose. Et en même temps, j'ai jamais envie de refaire un bâtiment pour la même raison. C'est-à-dire que si je refais un bâtiment 10 ans après, ce sera pas le même. Puisqu'il y a un autre savoir, il y a d'autres conditions, c'est pas les mêmes personnes, etc. Donc je considère que chaque bâtiment est totalement daté, que dans la contextualité, le temps est essentiel, le moment où on construit, la durée de construction, les conditions de construction, et telle entreprise et telle autre. Donc ça, ce sont des paramètres qu'on ne peut pas changer. Donc il faut considérer qu'on joue avec ces paramètres-là, et il faut être d'une tension totale pour utiliser au mieux tous ces paramètres-là pour arriver à faire le mieux possible. C'est pas la perfection. La perfection n'existe pas dans des conditions comme ça. Mais on peut aller quand même beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'on critique souvent les architectes en disant qu'ils veulent être des perfectionnistes. Mais il faut qu'ils soient des perfectionnistes, parce qu'en général, c'est quand même loin de la perfection, même quand on est perfectionniste.
Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a un projet, qu'on a une commande ou qu'on a gagné un concours, il y a la nature du bâtiment. On a parlé de ces lieux d'art et de culture, mais aussi des lieux d'habitation, des lieux de bureaux. J'évoquais une école maternelle au tout début. De quelle façon pensez-vous aux gens qui vont traverser ces espaces, vivre dans ces espaces, travailler dans ces espaces, visiter ces espaces? Quelle place ont les usagers dans votre pensée, Jean Nouvel?
J'aime pas le terme usager. Je pense que c'est... Oui.
C'est pour regrouper toutes les possibilités.
Il y a une dimension, un peu sociologique et un peu fonctionnelle, bon, qui, je crois, ne correspond pas à la situation. Moi, je crois que toute architecture est sentimentale. Je crois que quand on construit, c'est pour quelqu'un. C'est pour eux. Toujours.
Quelle place occupent les projets qui n'aboutissent pas ou les projets qui n'ont pas remporté un concours dans votre œuvre finalement?
J'ai toujours refusé d'être un architecte de papier. Vous savez, les architectes de papier sont ceux qui ne font que dessiner. comme Piranèse, par exemple, qui n'a pratiquement fait que dessiner. C'est formidable, hein. C'est un art absolument génial. Et je considère, moi, qu'être architecte, c'est construire. Mais avec le système actuel, on fait des concours, on fait des projets, ils sont annulés, on a perdu, etc. Donc, j'ai une œuvre de papier beaucoup plus importante que l'œuvre construire. J'ai appris à aimer mes bouts de papier, à aimer les projets qui ne sont pas arrivés. Donc c'est souvent une grande déchirure aussi quand on perd un concours et qu'on est persuadé que ce qui était là était 10 fois mieux que ce qui est fait, ce qui arrive de temps en temps quand même. Bon, et quelquefois on peut avoir tort aussi, hein, ça peut arriver. Mais il y a dans les blessures, je dirais, de tous ces projets mort-nés, quelque chose de très profond. Alors il nous reste les livres. Il nous reste les expositions, il nous reste la façon de les faire vivre comme des traces de l'esprit.
Mais justement, à propos d'expositions, de livres, mais plus largement, la réception critique de votre travail, les textes qu'on a pu écrire sur vous, alors, quand c'est dans le cas de livres, c'est plutôt évidemment des textes qui analysent et louent votre travail, mais d'une façon plus générale, Jean Nouvel, quel rapport vous avez avec la réception critique de ce que vous faites ? Critique au sens...
Oh, j'ai eu des rapports plutôt difficiles, il faut le dire. En particulier avec la critique française. Bon, mais je dirais que tout ça correspond à l'histoire d'une époque. C'est normal qu'un critique soit engagé. C'est normal que je ne corresponde pas automatiquement à cet engagement. C'est quelquefois très pénible, quand même. C'est quelquefois très pénible. Donc il faut arriver à oublier ça. Il faut arriver à savoir que ce qu'on fait, c'est avec des raisons solides. Et puis en général, c'est pas une critique internationale qui est assassine. Bon, c'est quelques accidents, je dirais, ou quelques personnes qui sont acharnées contre vous parce que sûrement vous avez touché un point sensible. Alors je ne citerai pas de nom. Ça pourrait toucher France Culture, sait-on jamais.
Non, c'est jamais. Je vois pas de qui vous pouvez parler. Enfin bon. Alors. On pourrait dire à l'inverse, Jean Nouvel, je ne me lancerai pas dans l'énumération des prix, récompenses et autres distinctions que vous avez reçues à ce jour, avant les prochaines, parce que là, l'heure de masterclass s'en trouverait trop largement amputée. Juste quand même, je signale Grand Prix National d'Architecture, Médaille d'Or de l'Académie d'Architecture Française, Lion d'Or à la Biennale d'Architecture de Venise, Premium Impérial en Architecture, ça c'est l'Association Japonaise des Beaux-Arts, Prix Pritzker... On dit le Nobel de l'architecture pour faire vite. Vous êtes également officiel à la Légion d'honneur. Quelle importance vous accordez aux prix, aux récompenses, aux distinctions ?
Celle qui m'a le plus touché, vous n'en avez pas parlé.
Ah. Mais comme ça vous permet de le faire.
Voilà, ça permet de le faire. C'est la Gold Medaille du RIBA. Pourquoi ? Parce que c'est le prix le plus ancien. Et c'est le prix dans lequel, depuis le 19e siècle, il y a tout le monde. De Garnier à Wright à Le Corbusier, etc. Donc je suis le dernier Français depuis Le Corbusier, j'en suis très fier aussi. mais ce que je veux dire, c'est que la plupart de ces prix-là, bon, considèrent qu'ils sont les Nobel de l'architecture, en particulier pour le Premium, ils considèrent que c'est le Nobel des arts et que l'architecture est un art. Mais ce qui est plus important, c'est la reconnaissance de ses pairs, effectivement, et c'est de considérer que ces prix-là... sont en relation avec une forme de pensée liée à une époque à chaque fois. Et donc, je crois que l'architecture est un témoignage d'époque et que ces éléments-là sont des marqueurs, tout simplement.
Mais justement, par rapport à la question des marqueurs d'époque, Jean Nouvel, est-ce que la question de la postérité, elle se pose pour vous ?
Non, c'est pas une question que je me pose vraiment. Je dis toujours que, parce qu'on parle toujours de star architecte, je pense que les vrais stars et la vraie question de la postérité, elle se pose par rapport aux bâtiments et pas par rapport à l'architecte. Il y a des bâtiments qui sont très très célèbres et dont on ne connaît pas le nom de l'architecte. Mais je dirais c'est le bâtiment qui lui est le résultat important. L'auteur, c'est bien, mais l'auteur il disparaît, le bâtiment reste.
Oui, enfin, quand un écrivain, un cinéaste dit « je veux laisser une trace dans l'histoire oui. », il laisse des livres, des films oui. qui seront bientôt oui. plus
ce
que des fichiers.
Ce sont les traces qui sont importantes. Oui.
Là, ce sont d'autres traces. J'ai évoqué tout à l'heure ce paysage parisien que vous avez déjà largement contribué à modifier. Alors peut-être qu'effectivement, les gens oui, qui passent devant savent pas que c'est vous, mais
oui,
quand
mais
même.
Oui, bon, mais la ville est un musée, on le sait. La ville, c'est un livre de pierre, donc y ajouter sa pierre, c'est bien. Et avoir quelques objets représentatifs dans ce grand livre, c'est bien aussi. Donc ça, c'est pas mis en question. Mais j'ai pas une obsession, je dirais, avec la question de la postérité.
Et la question de la transmission, l'héritage, la pédagogie, est-ce que c'est une dimension que vous regrettez peut-être de ne pas avoir davantage?
Non, j'ai jamais enseigné pour une raison simple, c'est que je suis fils d'enseignant et que j'ai une conviction très profonde sur ce qu'est un enseignant. Et pour moi, un enseignant, c'est pas quelqu'un à qui on enseigne ce que l'on sait. C'est être enseignant, c'est révéler l'élève à lui-même. Bon, et pour ça, il faut du temps. Et ce temps, je ne l'ai pas. Donc, si j'ai un peu participé à cet acte d'éducation, c'est dans une forme très traditionnelle, c'est celle des ateliers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus travailler avec moi, sans concession, je dirais, c'est-à-dire dans la dureté du travail, dans ses ennuis liés aux problèmes techniques et aux problèmes financiers, dans tout ça. Autrement dit, c'est pas du tout une école au sens traditionnel du terme, c'est l'école de la vie.
Mais est-ce que vous pouvez désigner des héritiers ou des gens qui sont sous bonne influence Jean Nouvel, ou est-ce que des gens qui se revendiquent de vous, peut-être sans avoir même jamais croisé votre route, ça vous importe que ce qui est quand même quelque chose
Je suis toujours heureux d'abord de voir des architectes qui sortent de chez moi, qui ont les grandes distinctions. C'est le cas avec Myrto Vitar et avec Ibos, Jean-Marc Ibos, qui ont été Grand Prix National de l'architecture cette année. Donc j'en suis très fier en tant qu'ancien, je dirais, maître, entre guillemets, et en tous les cas partenaire aussi avec eux. Donc à chaque fois, ça me fait plaisir. Et effectivement, bon, quand d'autres viennent me parler, certains de mes confrères, comme on dit, ou de mes amis qui font ce métier, et qu'ils me disent ben, « ça m'a plu, et ça m'a fait faire ça », etc., je suis très touché. Oui.
Et vous, de quelle façon est-ce que vous regardez les travaux de vos confrères et consœurs dans le monde?
Ben, j'ai beaucoup d'amis dans ce métier, beaucoup d'admiration aussi, et beaucoup d'entre eux. Et donc, à chaque fois que je les vois et à chaque fois que je visite un de leurs bâtiments, je suis rempli d'aise.
Quel genre d'aise, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vous provoque à vous?
Non, mais je peux parler d'eux, hein, que ce soit Renz au piano, que ce soit Richard Rodgers, que ce soit Jacques Herzog et Pierre de Moron, que ce soit Franck Guéry, que ce soit... Bon, je suis à chaque fois en osmose avec eux. C'est-à-dire que je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Même si on ne fait pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir. Mais il y a un grand respect et je trouve qu'il y a un grand plaisir aussi à visiter ces architectures et les voir. Et en même temps, on apprend aussi.
Durant l'hiver 2016-2017, il y a eu une exposition au Musée des Arts Décoratifs de meubles et objets signés Jean Nouvel. C'est une dimension qu'on n'avait pas abordée jusqu'à présent, mais comme on s'achemine vers la fin de cette masterclass. Quelle importance ou quelle place occupe cette pratique dans votre vie, dans votre processus
Mais écoutez, je crois que ça fait partie de la culture architecturale. Je dis toujours que je suis pas un designer, mais un architecte qui fait du design. Il y a une forte tradition déjà, donc j'essaie de prolonger cette tradition. Mais je considère aussi que les objets sont des petites architectures pour moi. C'est-à-dire que ça fait partie de la discipline. Je crois que l'architecture existe depuis la plus grande échelle, ce qui est l'échelle urbaine ou l'aménagement du territoire, jusqu'au petit objet, jusqu'au bijou, à la limite. Bon. Donc tout ça, c'est un acte de création d'un objet inventé dans l'espace, bon, et qui est porté d'une façon ou d'une autre, ou posé d'une façon ou d'une autre. Donc je m'en suis expliqué, justement, dans cette exposition aux arts décoratifs. Et il faut savoir que j'ai jamais travaillé comme un designer. Si je me suis, j'ai pas ouvert un bureau... En essayant de prendre contact avec des industriels ou avec des personnes. Bon, c'est au fur et à mesure, quand je terminais un bâtiment, on me dit, mais monsieur l'architecte, qu'est-ce que je mets comme meuble dedans, maintenant? Bon, et là, ça m'a amené à certaines prises de position, parce qu'en général, je me retrouvais devant des meubles qui étaient souvent des années 30, 40, et on m'expliquait que c'était moderne. Bon, c'était pas évident pour moi. Bon, et là, j'ai essayé d'inventer des systèmes qui me permettaient de proposer des meubles qui seraient en relation, en contextualité avec mes propres bâtiments. Et c'est là où j'ai inventé les élémentaires. Par exemple, c'est un peu ce qu'on appelle zéro design ou de l'anti-design. C'est-à-dire, c'est toujours deux parallélépipèdes qui servent d'accoudoirs, plus deux autres qui sont dans l'autre sens de différents angles, que je peux faire de différentes proportions, plus haut, plus long, plus bas, un dossier très haut, un dossier très bas, et de la couleur que je veux en cuir. Bon, et une fois qu'on change tous ces paramètres-là, on arrive en général à avoir un objet de la bonne taille, de la bonne couleur, du bon usage, puisque ça change le programme du meuble en tant que tel, et ça se fait très vite. Donc c'est une façon de contourner la chose, si j'ose dire.
Mais le fait qu'on puisse... ces objets ont été édités, on peut en acheter, les mettre dans son propre contexte. Il y a quelque chose là que vous lâchez.
C'est la caractéristique du meuble, c'est qu'on ne sait pas où il va. Et là, il faut faire confiance à celui qui l'achète. Comme il l'aime, donc il va le mettre dans un endroit correct.
Ah, vous faites confiance.
Tout à fait. Et puis ensuite, s'il est dans un mauvais endroit, ça peut changer. Il faut être optimiste.
Ah oui, il peut y avoir une influence positive du meuble sur le lieu.
Oui, par exemple.
Un rayonnement positif.
Par exemple, c'est une très bonne idée.
Est-ce que y a un rêve quand on choisit ou qu'on est choisi par ce métier d'architecte, ce serait celui de bâtir une ville. Est-ce que vous l'avez eu, ce rêve, Jean Nouvel?
Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul auteur qui a comme ambition d'écrire une bibliothèque?
Je crains qu'il y en ait, mais ça, c'est un autre sujet.
Je pense quand même que ça serait un peu présomptueux, un tout petit peu. Mais non, je pense quand même que je suis contre les villes nouvelles. Et je me suis battu contre elles depuis très très longtemps, y compris ces villes nouvelles parisiennes qui n'en sont pas. Je crois qu'une ville nouvelle existe quand il y a une très forte raison. Militaire, découverte d'un minerai, des choses qui font qu'à un moment, il faut faire très vite quelque chose. Bon. Je pense que malheureusement, on est dans un système urbain où les choses arrivent trop dans l'urgence. Il n'y a rien de pire pour l'architecture que l'urgence, les trois quarts du temps. Là, je redoute encore qu'une série de bâtiments sociaux, nous allons ça, peuvent arriver très très vite. On parle de 200 000 logements qui vont être faits très vite. Bon, ça va être une nouvelle génération d'immeubles faits dans les premiers terrains libres, par rapport à les plus grosses entreprises, sur des programmes très très peu profonds, etc. Bon, une nouvelle couche de gangs pas de très bonne qualité. Donc il faut du temps, et il faut considérer que l'architecture, c'est quelque chose qui s'élabore.
Brasilia, c'est une folie?
Brasilia, c'est un formidable recueil des œuvres d'Oscar Niemeyer, parce que c'est un... Oui, mais là, c'est une ville officielle. C'est encore autre chose. Donc, son assemblée, sa cathédrale, bon, tout est formidable. Mais par contre, si vous regardez Brasilia en tant que ville, autrement dit, ce qui est autour du quartier officiel, ben, je crains qu'on n'est pas, on n'est pas résolu la question vraiment. Bon, ça ne veut pas dire qu'on peut pas construire des quartiers officiels, ça ne veut pas dire qu'on peut pas construire des choses d'une certaine échelle et qui sont liées à des demandes de représentation. Ça, on peut le faire, mais je pense que c'est pas une façon de faire la ville.
Et est-ce que, pour terminer cette masterclass, Jean Nouvel, vous vous êtes construit une maison pour vous quelque part?
Non.
Pourquoi?
Oh, c'est trop compliqué.
Vous n'avez pas tous les paramètres?
Non, c'est trop compliqué. Par rapport à ma vie, c'est trop compliqué. Ce que j'ai fait, j'ai aménagé un appartement, c'est une sorte de loft. Mais c'est tout ce que j'ai réussi à faire. J'ai jamais eu les moyens, entre guillemets, de me construire une maison. Mais ça va peut-être venir.
On le souhaite. Merci beaucoup, Jean Nouvel, et merci au public qui était présent cet après-midi pour vous écouter. Merci infiniment.
C'était la masterclass de Jean Nouvel avec Arnaud Laporte. Attaché de production Mathieu Maroudin, coordination Arnaud Laporte, réalisation Olivier Guérin.